Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Billy Ivan Lutumba.
Ce journal s'ouvre par cet autre naufrage signalé dans la province du Sud Kivu, en territoire de Calais. Une embarcation s'est renversée dans le lac Kivu. Le bilan actuellement provisoire fait état de 7 corps pêchés, parmi eux des pêcheurs venus à la rescousse des naufragés. En seconde partie de cette édition, nous parlons de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu et aussi la province de l'Ituri. Des recommandations formulées et stratégies en exécution pour venir à bout de cette insécurité qui gangrène ces deux provinces. Nous en faisons le point dans ce journal. Œuvre de Baden Powell, le scoutisme. Nous en parlons en fin de cette édition avec notre invité Gilbert Moussumba, commissaire de la Fédération des scouts de la RDC. C'est à l'occasion du lancement de la 8e conférence nationale ordinaire de la Fédération des scouts du pays. Fidèles auditeurs, merci de choisir Radio Okapi pour vous informer. En ce midi, bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Un énième cas de naufrage est enregistré au sud Kivu, sur le lac Kivu, dans le territoire de Calais. L'incident s'est produit le dimanche 19 septembre dernier à la mi-journée. Des sources concordantes évoquent un bilan de 7 morts et des personnes portées disparues jusqu'en ce moment. Il s'agirait d'une pirogue motorisée en provenance de la localité de Kasuyu qui a chaviré avec une trentaine de passagers et de marchandises en direction de la ville de Bukavu. La cause de ce naufrage serait la surcharge et un vent violent qui est survenu sur le lac. Dédé Mwamba, administrateur du territoire de Calais, confirme cette information.
Il s'agit d'une embarcation qui venait de Kasuyu vers Bukavu, dimanche à 13h.
Il n'y a que 7 morts, dont 2 femmes, 3 enfants et les 2 pêcheurs là. Et les autres, on les a retrouvés.
Et on continue un peu sur base du manifeste pour voir est-ce qu'il y a encore des disparus.
Mais nous savons qu'à Calais ici, aucune embarcation ne quitte sans gilet de sauvetage.
Mais est-il que les analyses de l'enquête sur le terrain, il s'agissait d'une surcharge. Il y avait des commerçants avec leurs marchandises, quelque chose comme ça, mais il y avait un vent violent qui est à la base donc de cet accident-là. Les recherches continuent puisque l'endroit-là, des fois, s'il y a des disparus, c'est rare qu'on les retrouve.
Les enquêtes se poursuivent. Il y a le chef des ressorts maritimes qui est sur le terrain qu'on a dépêché pour qu'il arrive à l'endroit où le bot était parti,
oui,
pour vérifier un peu ce qui s'est réellement passé afin que nous puissions prendre les dispositions.
Signalons que ce nouveau naufrage parmi tant d'autres sous le lac Kivu intervient alors que plusieurs mesures avaient été annoncées, dont notamment le port des gilets de sauvetage par tous les passagers et le contrôle de la charge. Près d'une dizaine de personnes, dont des femmes et des enfants, sont morts dans un accident de circulation survenu hier lundi dans le Lualaba, à la limite avec la province du Lomami. C'est un camion transportant les marchandises en provenance de la Lomami qui s'est renversé. La société civile du Lualaba, qui confirme cette information, regrette cependant que la mesure interdisant le transport des marchandises et des passagers dans le même camion ne soit respectée. Charles Drac Moukad l'a dit à Jean Gandou.
Ces camions transportaient à bord plus de 1600 bidons d'huile de palme. Et plus grave, malgré l'interdiction de transporter et les marchandises à bord, en même temps des personnes. Ces camions transportaient plus de 200 personnes à bord. Cet accident de circulation a causé la mort de plus de 8 personnes. On attend la levée de ces camions pour vérifier en dessous combien de cadavres s'y trouveraient. Mais il est aussi enregistré, selon les sources de la société civile de ce village de Kalamba, beaucoup de blessés parce qu'on nous dit que l'hôpital de référence de Kalamba, dénommé Zamopandish, serait débordé des malades, de blessés qui sont admis à cet hôpital. Le comble est que l'État a déjà interdit ce mode de transport. Malheureusement, cela s'est fait au vu des agents qualifiés d'assurer la circulation, notamment la PCR et d'autres services de l'État qui devaient contrôler et faire respecter les dispositions légales.
On parle à présent en sécurité. En territoire de Massissi, au Nord Kivu, au moins 2 villages ont été victimes d'attaques simultanées la nuit de dimanche à lundi. Attaques perpétrées par des présumés combattants des Machano dans le groupement Oufamandou 1er. Selon les sources sur place, ces Maïmaï ont attaqué les villages en milieu de la nuit. Plusieurs biens des populations ont été pillés et quelques personnes blessées, ajoute le président de la communauté Tembo du Nord Kivu. Kibuya Donatien plaide pour une intervention du gouvernement. Il revient d'abord sur les circonstances de la récente attaque au micro de Bernard Nyangi.
Cette nuit de ce dimanche, à partir de 0h, les villages de Kiwatire, Bundeya a été menacé, pillé et violenté aussi par le rebelle de Machano et de son adjoint Aguma. Les victimes de cette barbarie ont été dépêchées au centre de santé de Bukuba et d'autres vers Miano pour des soins appropriés. Alors que l'intervention de nos forces loyalistes est parvenue avec un grand retard ce matin. Donc nous venons demander au gouvernement militaire de commencer vraiment les affrontements immédiats pour que la population de Oufamandou Premier aussi respire le temps de siège qui a été décrété par notre président de la République, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aussi pour voir aussi comment le parent d'élève prépare aussi la rentrée scolaire de leurs élèves dans un bon climat pour voir si du moins il y a déjà la paix, les enfants vont reprendre le chemin de l'école convenablement.
Rappelons que plus d'une dizaine de villages de Oufamandou Premier sont déjà vidés de leur population à la suite de l'activisme de ses combattants Maïchano et leurs alliés. Pour certaines sources locales, ce chef de milice aurait déjà commencé à recruter d'autres combattants sur place. À Nitouri, plusieurs vies humaines et des cargaisons de marchandises sont préservées chaque semaine des attaques des rebelles des ADF grâce aux escortes de la MONUSCO et des FRDC sur le tronçon Komanda Luna. Nous sommes là en territoire d'Iromo. L'armée congolaise et la MONUSCO ont mis en place des moyens logistiques importants dont des hélicoptères de la mission onusienne qui font la surveillance aérienne pour protéger la population. Une action saluée par les transporteurs et les chauffeurs des véhicules qui fréquentent cet axe qui relie trois provinces, notamment l'Ituri, la Tshopo et le Nord Kivu sur la route nationale numéro 4. Isaac Lemoyope a participé au dernier convoi de dimanche. Suivez son reportage.
Ce bruit est celui d'un hélicoptère de la MONUSCO qui survole les cortèges de voitures et des camions transportant des marchandises. Au sol, trois chars de combat de la MONUSCO avec des casques bleus et trois véhicules de FARDC remplis de militaires sont placés devant des groupes de véhicules de civils. L'armée congolaise a également déployé des soldats tout le long de cet axe routier pour protéger les véhicules qui tombent en panne. Tous ces dispositifs permettent d'écarter toute tentative d'attaque des rebelles des ADF qui menacent la stabilité dans la zone. Cela s'est fait à la grande satisfaction des usagers des routes. Selon les porte-parole de la MONUSCO à Nitouri, cette intervention s'inscrit dans le cadre du mandat de la MONUSCO de soutenir le gouvernement de la RDC pour la protection des civils. Cela dans le but de maintenir les trafics sur cette route d'une importance capitale. Jean-Tobi Okala.
Aujourd'hui, tout marche bien. Et donc, la MONUSCO met tous les moyens dont elle dispose à la disposition, n'est-ce pas, des FARDC et de la population. Parce que le but ultime de ces escortes, c'est de maintenir quand même le trafic sur cette route qui est d'une importance capitale. C'est pour éviter qu'un jour l'Ituri ne soit asphyxié et même le Nord Kivu.
Signalons que plus de 25 véhicules sont déjà incendiés par les rebelles des ADF sur cette route avec des dégâts énormes dont le meurtre des civils et la perte de plusieurs tonnes de marchandises. Des retours des commandants Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Nous retournons dans la province du Sud Kivu pour parler de l'ONG héritier de la justice qui appelle le président de la République à introduire une requête pour la création d'un tribunal pénal international sur la RDC auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette demande est faite en marge de la Journée internationale de la paix célébrée ce 21 septembre et en prélude du discours de Félix Antoine Tshisekedi devant l'Assemblée nationale des Nations Unies. Les précisions avec Cynthia Bachizi Nabizana.
La commémoration de la Journée internationale de la paix devrait sous-entendre un engagement fort des pouvoirs publics. Mais cette journée doit aussi inciter les citoyens à œuvrer sans relâche pour la refondation de l'État, souligne l'organisation héritier de la justice. Voilà pourquoi cette ONG demande à Félix-Antoine Tshisekedi, président de la RDC, de saisir officiellement le Conseil de sécurité de l'ONU lors de son adresse devant la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et ce, pour la matérialisation d'une des recommandations du rapport Mapping. C'est notamment la création du tribunal pénal international pour la RDC. Cette juridiction spéciale facilitera le jugement des auteurs présumés des crimes documentés dans le rapport Mapping, ainsi que de nombreuses autres violations graves des droits humains commises en RDC. L'ONG héritée de la justice formelle, c'est uniquement à ce prix que la RDC se relèvera avec d'autres nations et vivra dans une paix durable. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Fidèles auditeurs, sachez que Radio Okapi vous proposera le discours en direct du chef de l'État. Ça sera à partir des 19h de Kinshasa. Au Kasaï oriental, fin Mbujima et de la mission officielle effectuée par les membres de la cellule chargée de l'eau et de l'électricité à la présidence de la République. Au cours d'un point de presse tenu ce lundi, les membres de ces délégations affirment avoir résolu pendant 2 mois des missions certains problèmes liés à la desserte en eau potable, à l'éducation, à l'agriculture, à la santé ainsi qu'à la fourniture en énergie électrique. Concernant la desserte en eau potable, la délégation présidentielle dit avoir remis des fonds pour améliorer la fourniture permanente de l'eau sur la ville. Cela a permis d'alimenter en eau potable certains édifices publics tels que l'hôpital général de référence de Bonzola ainsi que la prison centrale de Mbujimayi, coupée d'eau depuis plus de 10 ans. André Kadima, membre de la délégation présidentielle, s'exprime au micro d'Esther Ndalafina.
On n'a pas seulement arrangé les pommes d'eau parce qu'il y a l'arrivée probable du président de la République, mais nous avons arrangé ce système pour qu'il reste un système définitif. Donc ça, c'est la différence. On est parti pour d'abord analyser la capacité de la régie des eaux. La régie des eaux tire son eau de l'Oukeling. Il y a un débit de plus de 9000 m3 par heure. Nous sommes arrangés pour qu'on pompe entre 15h et 24h pour que la ville ait toujours de l'eau. En passant, je vous signale aussi que la prison qui est restée plusieurs années sans eau, on a mis de l'eau à la prison. Donc ça, c'est un truc très positif pour notre mission. On a travaillé sur le Zomba, quelques pompes sont arrivées. Donc nous avons cofinancé cette ligne-là avec la MIBA. Vous savez, vous tous, que ça faisait 10 ans que Bonzola n'avait pas d'eau, que Monseigneur n'avait pas d'eau, que Bufargo n'avait pas d'eau. S'il n'y a pas d'eau sur la ville, c'est NRK et la régie des eaux. Mais de l'autre côté aussi, nous avons soutenu NRK. On continuera à le soutenir. En Mbujimayi, il y a la centrale de Tchala. Tchala est en 3 parties. Même quand nous avons du courant ici, c'est un miracle. Il n'y a que le bilange 1 qui marche. Il y a une turbine qui ne marche pas. Il y a 3 turbines qui fonctionnent. Mais ce sont de vieilles histoires, bonnes pour la poubelle. Mais les gens de NRK, ils font énormément d'efforts pour vous donner de l'électricité.
L'actualité nous amène dans la province du Maniema où l'ONG Initiative Plus Olive Lembe Kabila a assisté le lundi 20 septembre 54 femmes des 3 communes de la ville de Kindu ayant accouché par césarienne. Cette assistance en vivre et non vivre a été remise à travers la coordination provinciale de cette ONG de l'ex-première dame devant le chef de division des affaires humanitaires et sociales. Pour le coordonnateur de Hippolyte Maniema, ce geste caritatif de sa présidente vise plutôt à donner du sourire aux vulnérables. Ouseni Pungu Gabriel parle au micro de Florence Kizalunga.
Nous sommes une structure humanitaire. Nous avions invité les mamans qu'elles ont accouchées par la voie césarienne. Vous savez, notre obligation, aussi comme la présidente Marie-Olive Lembe a la mission de redonner encore les sourires à leur sœur et à leur maman, c'est à cette raison qu'elle a estimé de donner ne fût-ce qu'une petite assistance au profit de ses membres. Ils ont bénéficié chacun un sac de farine, 50 000 francs et une pièce de waxi. Nous avions envoyé nos mamans à travers les hôpitaux pour les identifier. C'est une observation que j'ai apportée à leur faveur. Si vous bénéficiez ne fût-ce qu'un don gratuit comme ça, il ne fallait pas le vendre. C'est une manière qu'on vous prenne en charge, mais il faut aussi maximiser cette occasion-là.
Un mot du Kasaï central avant de passer à la page internationale. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a doté la province le week-end dernier des équipements de fiabilisation des routes des dessertes agricoles. C'est dans ce cadre du projet d'appui aux ex-combattants et communautés dans le cadre des mobilisations spontanées SS4. 3 territoires ont été ciblés pour ce programme. La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur intérimaire, des notabilités et des quelques représentants des ONG locales. François Kadima.
5 compacteurs et 5 tronçonneuses constituent les lots de matériel remis à la province du Kasaï par le PNUD. Le projet concerne 3 territoires dont Chikapa, Ilebo et Luebo. Cette dotation s'inscrit dans le cadre du projet SS4. Celui-ci va occasionner la création de 1000 emplois temporaires au bénéfice des démobilisés spontanés et des victimes directes des conflits et autres membres vulnérables, a indiqué le chef du bureau du PNUD au Kasaï. Selon Patrick d'Oliveira, 136 km de route de desserte agricole réparties entre ces trois zones vont être entretenues avec ce matériel par les ONG locales ciblées. Le souci est de lutter contre la pauvreté.
Aux côtés des dirigeants et de la population kasaïenne, dans leurs efforts pour promouvoir un état de droit, la bonne gouvernance, la démocratie, la réduction de la pauvreté et des inégalités, dont les résultats contribueront à engager durablement la province sur le chemin du développement et de la paix durable.
Saluant ce projet appuyé par le PNUD, le ministre provincial du plan du Kasaï a indiqué qu'il est financé à hauteur de 6 millions de dollars américains. Signalons qu'en dehors de la province du Kasaï, ces projets ciblent également le Kasaï central et le Tanganyika. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Le second tour des élections législatives et locales aura lieu le 30 septembre en Éthiopie, mais le vote n'aura pas lieu dans 18 circonscriptions de la région d'Amara et 8 de la région d'Oromia en raison de l'insécurité. L'annonce a été faite lundi par la commission électorale. Ce scrutin concerne 47 sièges pour le Parlement fédéral et 105 au niveau régional. Environ 7 millions d'électeurs sont attendus aux urnes. L'Éthiopie compte 547 circonscriptions électorales au niveau national, mais le Conseil électoral a abandonné tout projet d'organiser des élections dans le Tigré, qui est actuellement contrôlé en grande partie par le TPLF.
L'invité.
Avec près de 170 000 membres, la Fédération congolaise des scouts est parmi les 5 meilleures organisations de scoutisme au monde. C'est ce qu'a dit ce lundi à Goma le commissaire de la Fédération des scouts de la RDC. C'est à l'occasion du lancement de la 8e conférence nationale ordinaire de la Fédération des scouts du pays. Quel est l'apport du scoutisme dans la vie des Congolais? Gilbert Moussumba en parle dans cet entretien avec Rosalie Zawadi.
Monsieur Gilbert Moussumba, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de commencer aujourd'hui la 8e conférence ordinaire nationale de la Fédération des scouts du Congo. Quel est l'objectif de cette conférence?
C'est l'équivalent d'une assemblée générale élective qui se tient toutes les 3 années. Et lorsque nous ne l'organisons pas, nous sommes suspendus par l'Organisation mondiale des mouvements scouts. Alors tous les 3 ans, nous nous réunissons avec les responsables provinciaux qui viennent des 4 coins de notre pays. Et c'est pour cette raison que nous sommes aujourd'hui ici. Le thème, c'est « Tous ensemble pour l'innovation de la Fédération des scouts de la RDC ».
Qu'est-ce que vous voulez innover dans votre fédération?
Notre fédération est en train de grandir. En 2015, nous étions autour de 46 000 jeunes. Aujourd'hui, 6 ans après, nous nous retrouvons autour de 169 000 jeunes. Nous avons même été proclamés parmi les 5 meilleures organisations scouts nationales du monde avec cette croissance ici. Alors, pour grandir, il faut s'organiser. Et dans notre organisation, nous pensons qu'il est temps que nous puissions professionnaliser certaines structures, que nous puissions nous atteler à entrer dans les différents segments des populations cibles où nous n'avons pas encore été, notamment dans les écoles. Nous voulons créer du scoutisme scolaire. Nous voulons aussi créer du scoutisme qui sert la population jeune nécessiteuse. Là, j'ai cité par exemple les enfants de la rue, j'ai cité les enfants qui sont dans les camps des déplacés, j'ai cité pour le cas précis de Goma et du Nord Kivu, les enfants victimes de l'éruption volcanique. Nous pensons que là, il faut très bien s'organiser pour atteindre cette couche de population et faire du scoutisme un moyen de permettre aux jeunes d'être des citoyens actifs qui vont dans le sens de changements positifs de leur communauté.
Des jeunes qui contribuent au changement, de manière générale, quelle est la contribution du scoutisme dans l'évolution, dans la formation d'un jeune?
Le scoutisme, c'est un mouvement éducatif des jeunes où les jeunes lui-même se prend en charge. Nous faisons de l'auto-éducation. Et en se prenant en charge, nous essayons de l'accompagner pour qu'il sente le besoin d'intervenir dans sa communauté locale. Et ces interventions-là, nous les prenons à identifier les différents problèmes des communautés et à s'organiser avec d'autres jeunes de manière à se rendre utile par rapport à ce genre de problèmes qui se trouvent dans leur communauté locale. C'est ainsi que du temps où j'étais du côté de l'Est et plus précisément au Burundi, nous avions mis en place pendant environ une vingtaine d'années un programme que nous avons dénommé Amahoro Amani. Amahoro parce que ça signifie la paix au Rwanda, au Burundi. Amani qui signifie la paix au Nord Kivu et Sud Kivu. Et là, nous poussions les jeunes à organiser, à réaliser des petites actions, de rien du tout. Mais quand vous mettez toutes ces multitudes d'actions, vous remarquez qu'ils sont en train de contribuer au changement positif dans les milieux où ils sont en train de vivre. Voilà comment nous pensons que ces jeunes peuvent se rendre utiles et arriver à changer ce monde.
Votre mouvement connaît une croissance en RDC, comme vous l'avez dit. Quel est l'apport de ces mouvements en RDC?
Le scoutisme, nous faisons de l'éducation non formelle. Il est difficile de le remarquer rapidement. Mais si vous regardez autour de vous, la plupart d'autorités, la plupart des leaders, ils sont passés par ce mouvement scout. C'est-à-dire que nous apprenons aux jeunes dès le bas âge, à 6 ans déjà, à essayer de travailler avec les autres dans une coopération amicale. Nous les formons aussi à être capables de diriger les autres jeunes, des pères éducateurs. Alors, nous faisons de ces jeunes des citoyens responsables et leur contribution, c'est à la cohésion nationale. Alors, nous pensons qu'il est difficile de le remarquer, mais il faut nous approcher davantage pour voir la méthode scout que nous utilisons, que nous avons appelée la méthode d'auto-éducation, pour comprendre que, à la longue, le jeune qui fréquente le scoutisme est différent des jeunes qui n'ont pas été dans le scoutisme, que ce soit à l'école, que ce soit professionnellement aussi.
Monsieur Gilbert Moussumba, je rappelle que vous êtes le commissaire de la Fédération des scouts de la RDC. Merci.
Je vous remercie aussi.
Fidèles auditeurs, nous vous disons aussi merci d'avoir suivi cette édition de midi sur Radio Okapi. Merci également à Paul Badianyama qui a assuré la prise des sons et la mise en onde. Ce journal vous a été préparé par Noéla Luzitou, Pelé Kipelamondo et l'ensemble de la rédaction. Et Billy Van Otumba vous l'a présenté. Au nom de toute cette équipe, nous vous disons une fois de plus merci. Continuez à vous informer sur www.radiookapi.net.